Donc, content d'être avec vous ce matin. Ce n'était pas prévu ou inattendu. Pasteur Jeff ne se porte pas bien. Donc, ce n'est pas la COVID, c'est juste la voix. Donc, il m'a appelé hier matin. Il m'a dit, je pense que tu vas me remplacer parce que ça ne s'améliore pas. Donc, ce matin, on a jasé un petit peu. Il a appelé. On a parlé un petit peu. La voix n'est pas encore revenue. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste la voix qui est affectée et non la foi. Donc, ça va bien aller. Donc, moi, j'ai pris le défi de je lui ai dit, je ne peux pas te remplacer, mais je peux prêcher à ta place parce que je ne pense pas que je suis appelé à le remplacer, mais plutôt à le dépanner ce matin. Je vous remercie pour vos prières. Vraiment, Serge, vous aussi, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, toute ma confiance est en Dieu là-dessus. Peu importe qui prêche, j'ai toujours la confiance que c'est Dieu qui nous parle. Parce que si on s'attache qu'à un prédicateur, on fait de lui un idole, mais si on s'attache à la parole de Dieu, peu importe qui vient avec la parole de Dieu, mais ma prière, c'est que Dieu touche vos cœurs et vraiment que cette parole puisse vraiment nous faire du bien comme vous avez prié pour. Donc, j'ai pris le défi de garder le même thème, de garder le même verset. Il ne m'a pas envoyé sa prédication, donc c'est un défi. Donc, on va lire ensemble. Comme c'était écrit dans ce menu en Hébreux 11. On va commencer du premier verset et jusqu'au verset 20. Donc, pendant la prédication ou juste après la prédication, elle ne serait pas très longue parce qu'on a quand même une autre activité après. Donc, vous allez voir les enfants de l'école du dimanche monter. C'est correct. Il n'y a plus de distanciation. Ils ne sont pas malades. Personne n'a la COVID. Fait qu'ils vont s'asseoir parmi nous. Puis, ça va être bien correct. D'accord? Donc, lisons ensemble. Donc, on va partir du premier verset jusqu'au verset 22. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique que mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où ce qu'il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole et les gens qui écoutent, puisses-tu mettre dans leur cœur une disposition d'entendre. Et par moi, Seigneur, de ne parler que de toi, Seigneur, car ils sont venus t'écouter, toi, Seigneur. Alors, Seigneur, parle à leur cœur. Et, Seigneur, je te prie pour Pasteur Jeff qui nous écoute en ce moment, puisses-tu toucher, Seigneur, sa gorge et lui accorder une guérison afin qu'il soit avec nous dimanche prochain, Seigneur, en pleine santé. C'est ma prière, que ta volonté se fasse. Amen. Donc, on a ici, d'abord dans le texte, c'est par la foi. Il va dire, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai souvent compris ce verset, peut-être pas vous parce que vous êtes tous des bons théologiens, j'ai souvent mal compris ce verset. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souvent, j'ai compris qu'il fallait la démonstration pour prouver la foi. Mais ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset dit « La foi est une ferme espérance, est une ferme assurance des choses que l'on espère. » C'est déjà une assurance, la foi. Et la foi elle-même, elle est la démonstration. C'est la foi qui est la démonstration. Donc, je me suis dit « Ok, donc si la foi est la démonstration, donc ma foi... Ce qui arrive par la suite prouve ma foi et non le contraire. Ce n'est pas ce qui arrive qui prouve que j'avais la foi. La foi va prouver. Ce qui arrive va prouver que j'avais la foi. Par exemple, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar? On ne va pas adorer ton Dieu. Tu peux nous jeter dans la fournaise. Dieu peut nous en délivrer. Est-ce que c'est quand ils ont été délivrés que leur foi a été prouvée ou ils avaient la foi avant d'être jetés dans la fournaise? Avant. Donc, ce matin, n'attendons pas que les choses arrivent pour montrer qu'on avait la foi. Agissons notre foi. Est-ce que vous avez l'assurance ce matin, par exemple, que Dieu est fidèle? Vous avez cette assurance. Okay. Avez-vous l'assurance que Dieu peut vous sauver de tout? Oui. Là, il y a moins de gens qui répondent. Pourquoi? Avez-vous l'assurance qu'il va le faire? Okay. Et s'il ne le fait pas, est-ce qu'il reste fidèle? La foi n'est pas hors de la volonté de Dieu. Je veux juste qu'on s'assure de bien comprendre la foi. La foi n'est pas ce que je veux, mais plutôt ce que Dieu dit de la foi. La foi vient d'où? Et ce qu'on entend vient d'où? Parfait. Donc la ferme assurance, elle vient d'où? De ce que Dieu dit. C'est pour ça que ça s'accomplit. Donc si je me mets sur le toit de l'église ce matin et je veux prouver à Matthieu que j'ai la foi, je saute, j'ai dit Dieu va m'attraper. Matt, est-ce que ça risque d'arriver? Avant de rentrer dans la foi de Jacob, d'Isaac, on va juste comprendre ce que c'est tranquillement. La foi n'est pas aveugle. En 2 Thessaloniciens, il nous le dit, 5:21, examinez toutes choses. Donc, si quelqu'un ce matin vient me dire, écoutez, tu as une maladie, va pas voir docteur Côté, je vais prier pour toi, ça va être guéri. Je ne dirais pas non à la prière, mais je dirais oui que je vais aller voir aussi mon docteur. Parce que Dieu l'a donné cette capacité aussi. Donc, Si Dieu me dit clairement, non, tu n'as pas besoin, je vais te guérir, c'est autre chose. J'ai la foi dans sa parole, il va le faire. Mais le doc n'aura juste à confirmer ce que Dieu a fait. Vous me suivez? Donc, ce matin, avant qu'on tombe dans la foi et on veut avoir cette foi, on sait que Dieu va faire de nous de grandes choses, qu'il va faire une multitude de nations, puis du sein de Rebecca va sortir deux fils, puis deux grandes nations. Oui, avant de tomber là-dedans, est-ce que vous croyez simplement ce matin, si vous êtes ici, c'est par la grâce de Dieu? Simple. Commençons les choses simples. Souvent, on veut compliquer la vie, puis quand on arrive, ça ne marche pas et ça dégringole. Pourquoi? Parce qu'on est monté trop haut, trop vite. On a voulu aller trop vite. On a voulu être, je ne sais pas, des exemples de la foi. Moi, je veux être comme Abraham. Écoute, plus jeune, j'allais dans une église pentecôtiste et ils chantaient tout le temps une chanson qui me scie les oreilles, mais que j'aime bien en parler. Okay? Je vais vous en parler pour la première fois. Le titre, c'est « Je veux te ressembler, Seigneur ». C'est beau, à première vue, c'est beau. Et ils chantent ça avec tellement de ferveur, « Je veux te ressembler, Seigneur ». À un moment donné, je leur dis, « Qui est prêt à mourir ?» Personne. Mais pourquoi on mourrait ? Mais vous voulez ressembler à Christ. Êtes-vous prêt à mourir pour la parole de Dieu ? Et je vous dis, il n'y en a pas un qui voulait ressembler à Christ dans ce domaine-là. Ils voulaient tous ressembler à Christ en faisant des miracles, en multipliant des pains, mais en étant être capable de juste aller voir un frère et de le consoler, ça c'était autre chose. Ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est quand même incroyable. On veut vraiment avoir la foi d'Abraham, mais on n'est pas prêt à quitter notre patrie ni notre confort. Écoute, on a fait 2 ans en quasi-confinement. On a fait 2 ans à ne pas savoir ce qui se passait. Combien, selon vous, qui ont dit, « Bon, regarde, l'église est fermée, écoute, j'ai perdu l'habitude, je ne reviendrai pas, je vais continuer en ligne, par exemple. » Combien ont abandonné cette fraternité? Je vous ai déjà donné l'exemple. Si, suite aux 2 ans, on me dirait, « Écoute, les 2 ans nous ont donné des nouvelles habitudes, la technologie a été de l'avant, Zoom, Teams, désormais, ma femme et moi, on se voit qu'en vidéo. » Votre rire me dit que ce n'est pas une bonne idée. Mais la même chose pour l'Église. On est une communauté. On ne peut pas que se voir en vidéo. On a besoin de cette chaleur humaine malgré le masque. On a besoin de se voir. On a besoin de se dire combien qu'on s'apprécie. La foi, c'est aussi ça. C'est de faire confiance à Dieu qu'on peut se réunir encore. C'est encore un privilège, je l'ai toujours dit. Avoir une église, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un dû. Dieu bâtit son église, mais avoir cette bâtisse-là, c'est un privilège. Et la COVID nous l'a montré. Donc, revenons dans le texte. Et regardons ces 2 hommes, ces 2 jumeaux. Rebecca demande à Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Il dit, écoute, tu enfanteras 2 enfants, l'aîné servira le plus jeune. C'est des jumeaux. Et quand le premier sort, l'autre tient son talon, comme s'il ne voulait pas qu'il s'en aille, comme s'il y avait une guerre entre les deux. Combien de fois entre nous il y a cette tension? Combien de fois entre nous, il y a cette tension entre des frères et entre des sœurs? Ça ne marche pas, on ne s'entend pas. Combien de fois que c'est arrivé ça? Souvent, on regarde les hommes de foi comme des modèles, des gens qui n'ont jamais failli. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est encourageant, je vais vous dire pourquoi à la fin. C'est encourageant de voir que ces gens-là sont des gens comme nous, comme vous et moi. Ils ne sont pas des hommes surnaturels. Ils ont leur force, ils ont leur faiblesse, ils ont faim, ils ont soif, ils peuvent faillir, ils ont des manquements comme nous. Et vous connaissez l'histoire, un qui est sorti roux, etc. Je ne ferai pas toute l'histoire, mais vous savez ce qui arrive. C'est que qu'un jour, celui qui était l'habile chasseur, préféré de son père, arrive. Et qu'est-ce qu'il a? Il avait faim. Est-ce que vous avez déjà eu faim? Je ne parle pas, vous êtes sur l'autoroute, le McDo est à 3 km, puis vous avez faim là. Je parle avoir faim. On est plus environ une centaine, 150, 200 personnes. Personne n'a jamais vraiment eu faim. Vous avez eu un petit creux. Vous n'avez pas faim. La Bible dit qu'Ésaü arrive et il avait faim. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il était sur le bord de la mort? Qu'il était tellement faible qu'il fallait vraiment qu'on le nourrisse maintenant, sinon il passait de l'autre côté? Est-ce que c'est ce que le texte sous-entend? Ou c'est un gars qui rentre avec du gibier, qui est bien, et qui dit, écoute, moi, ça ne me tente pas d'aller cuire mon steak tout de suite, il y a un plat qui se fait, écoute, donne-moi à manger maintenant. Et Jacob va lui dire, parfait, t'as faim? T'as vraiment faim? Parfait. Il aurait pu dire, donne-moi ton gibier, je te donne une plat de lentilles. Ça aurait été un bon deal, non? Pourquoi il lui demande son doigt d'aînesse? C'est quand même curieux. Si mon frère arrive à la maison, il me dit que j'ai faim, je vais lui dire, passe-moi ton auto, puis je te donnerai. Tu sais, passe-moi quelque chose. Mais pourquoi il veut un droit si important? Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Tu sais, souvent on entend, tu sais, je dis souvent à des gens avec qui je parle, je leur dis souvent, on parle bien notre jargon chrétien. Tu sais, quelqu'un qui est parmi nous pour la première fois qui m'entend parler de droit d'aînesse, il va dire, de quoi qu'il parle? Mais on va le faire entre nous. Qu'est-ce que le doigt d'aînesse? Pardon, je n'ai pas compris. De quoi tu parles? Oui. Oui, il y a une bénédiction qui vient avec, oui. Oui. Voilà. Voilà, aîné, aînesse. Le doigt d'aînesse, c'est le doigt qui revient au premier. En d'autres mots, quand papa va partir, là, c'est toi qui t'occupes de la maison. OK? Donc, ce doigt d'aînesse-là, c'est un doigt qui est important parce qu'il gère tout le patrimoine familial. Il doit gérer et le côté économique et le côté spirituel. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement essentielle. D'ailleurs, dans certaines cultures, ça reste encore. Au Québec, moins. Parce que maintenant, on divise, on fait un testament, on donne au notaire pour éviter les chicanes et tout. Mais dans des cultures africaines et haïtiennes, ça existe encore. On donne le droit au premier de s'occuper de tous ceux qui suivent après lui. Alors, pourquoi ça vient en tête au deuxième de dire, ou à l'autre jumeau de dire, « Moi, je le veux. » Il se considère égal. Peut-être. Il se dit, écoute, si lui est là, moi aussi je peux l'avoir. De toute façon, je ne suis pas le petit frère, je suis juste le jumeau. Pas parce qu'il est sorti avant, moi j'ai des jumelles. Puis c'est la compétition à la maison. Qui est sorti en premier? Puis quand on leur dit, c'était comme, ah, c'est pas grave, c'est quand même moi la plus grande. Donc on voit, je peux le comprendre ça, de dire, écoute, moi je ne suis pas deuxième, tu es juste sorti en premier, peut-être tu étais tannant, on se battait, puis ils disent qu'ils se battaient dans le ventre. Donc, on voyait déjà cette compétition-là dès le sein de leur mère, qui avait déjà une compétition entre eux. Et Jacob va lui dire, « Vends-moi ce doigt-là. Je le veux. Je veux être celui qui est responsable de la famille. Je veux être celui qui va prendre soin de la famille. Je veux être celui qui va gérer les biens de la famille. » Écoute, moi, je trouve que le deal, Ésaü s'est fait avoir. Non, comme on dit au Québec, il s'est fait avoir ben raide, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme si je dirais à Rosaire, « Vends-moi ton chalet, puis je te donne un plat de beans. » Vous allez vous dire, « Écoute, Rosaire va dire, es-tu tombé sur la tête, lui? Ça... Je vais avoir des sirops d'érable en plus, tout le sucre qui vient avec, juste pour un plat de lentilles. » Ça veut dire, « Écoute, es-tu malade, lui? » Mais vous imaginez un deal aussi flagrant que ça par rapport, il l'accepte. Écoute, je vous dis, moi, je suis fasciné par la Bible. Des fois, je vois des choses comme ça, je me dis, attends, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment accepté ça? Il accepte. Tu vends une responsabilité énorme, un héritage énorme, une responsabilité énorme, juste pour manger en 2 minutes. Vous savez, si on n'accorde pas l'importance à ce que Dieu nous donne, chacun dans notre vie, on peut faire la même erreur. Là, c'est flagrant. Mais combien de fois dans notre vie, on a fait des mauvaises décisions? Combien de fois dans notre vie, on a vendu ce que Dieu nous a promis pour un moment de folie? Combien de fois dans notre vie, on a préféré une autre chose que la prière? Combien de fois dans notre vie, on a mis de côté Dieu pour autre chose? Ce sont des hommes pareils comme nous. Eux, ils n'ont pas eu l'Ancien Testament à lire. Nous, on l'a eu, on l'a lu et on fait encore les mêmes erreurs. Une chance que Dieu est bon. Il le vend et Jacob reçoit ce droit, le droit d'aînesse. Ce qui me fascine dans le texte, encore une fois, Dieu ne punit pas Jacob. Il peut dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Dans le texte, il me semble que Dieu aurait dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ça ne te revient pas. Mais il va juste punir Isaïe en disant, c'est quoi cette affaire-là? Tu as vendu ton droit d'aînesse. Il a mis de côté ce que Dieu lui a confié. Il n'a pas eu foi. Il n'a pas pris au sérieux ce qui lui était accordé. Dieu t'a donné une grande responsabilité. Peu importe comment la vie se déroule devant toi, il est fidèle. C'est lui qui l'accomplira. Et on va voir dans cette famille, comme dans plusieurs familles, sauf les vôtres, il y a du favoritisme. Le père qui aime l'enfant sportif, c'est un chasseur, il amène la viande, c'est l'homme. Lui, c'est un vrai. Va à la chasse, m'amène du gibier. Hein, Matt? C'est un vrai. L'autre, il est à la maison. Il prend soin de sa famille. Tranquille. Pour le père, c'est comme, bon, lui, il ne fait rien. Mais la mère l'aime. C'est un gars responsable. Là, on voit que les femmes et les hommes, on ne regarde pas les mêmes choses. Il trouve en Jacob un homme tranquille, sage, responsable. Et puisque le père, il vieillit, devient peut-être un peu blasé, aveugle, il va dire à son fils préféré, « Écoute, tu vas à la chasse là, ramène-moi quelque chose de spécial. » Et il lui fait confiance, il sait qu'il peut l'amener, il sait que c'est un habile chasseur. La Bible dit « un habile chasseur ». Donc, les chasseurs dans la salle, vous devriez relire ce texte-là et voir pourquoi il était habile, peut-être. Ça vous est... Je vois Sylvain qui est... Donc, c'est un habile chasseur. Et le père lui demande quelque chose. Et la mère entend qu'il va avoir la bénédiction. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle choisit son favori. Elle lui dit, écoute, je te fais un manteau de poil. Je vais faire en sorte que tu ressembles à ton frère. De toute façon, je le connais, il est sorti de mon sein. Je sais comment il est. Non, non, papa va le découvrir. Je vous le dis, monsieur. Si votre femme vous prépare quelque chose, vous allez vous faire avoir. Mon père me disait toujours, ne te crois jamais plus intelligent qu'une femme. C'est une femme qui t'a mis au monde. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça marche. Vous imaginez que ça marche? On a des jumeaux, vous allez dire, OK, ils se ressemblent, mais il semblait avoir une grande différence entre les deux, à un tel point qu'on a dû mettre des peaux, du poil, pour que l'autre soit un peu ressemblable à Ésaü, pour que Jacob soit un peu ressemblable à Ésaü. Et ça marche. Il va le bénir.